bonsoir. Entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à l'espace public au temps des Jeux Olympiques. À l'ordre du jour ce soir, JO à Paris, à qui appartiendra la rue ? Depuis deux semaines, les banderoles arborant les anneaux olympiques ont commencé à parer les bâtiments publics parisiens et les rues de la capitale. Il en est de même d'ailleurs pour Marseille qui accueille demain la flamme olympique. Mais au fur et à mesure que nous nous rapprochons des épreuves, nos rues vont voir peut-être de moins en moins de SDF, de personnes fragiles et de migrants, puis vont se doter de caméras de surveillance algorithmique et enfin de barrages pour accéder aux quartiers qui nécessiteront donc qui auront des épreuves qui se dérouleront dans ces lieux-là et qui nécessiteront un QR code pour y accéder. Quant aux manifestations, qu'en sera-t-il en juillet et en août ? Je ne suis pas sûr que nous pourrons entendre ces slogans pendant les JO à Paris et peut-être dans les autres villes qui accueilleront les épreuves. En tout cas, nous allons en discuter avec nos trois invités. Avec vous, Philippe Laton, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député MoDem de la première circonscription de Vendée et surtout co-auteur, à propos du sujet de ce jour, d'un rapport d'information d'avril 2023 sur les enjeux de l'utilisation d'images de sécurité dans le domaine public, dans la fidélité de lutte contre l'insécurité. Avec nous aussi en studio, Antoine de Clercq, bonsoir.
Emmanuel.
Vous êtes coordinateur de la campagne Le Revers de la Médaille, qui regroupe 90 associations, dont le Secours catholique et Médecins du Monde. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Et avec nous à distance, Elia Verdon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes doctorante en droit public et informatique à l'Université de Bordeaux et vous rédigez actuellement une thèse sur la surveillance des populations en démocratie. Vous êtes membre de l'Observatoire de la surveillance en démocratie qui organise d'ailleurs le 10 juin prochain dans les locaux de Cap Science à Bordeaux une conférence sur notre sujet.
Nous évaluons le nombre de personnes qui, sur les 6 km de linéaire, ont une vue sur la Seine à 200 000 personnes qui pourront regarder à l'intérieur du périmètre, mais de chez eux, la cérémonie. Et d'après ce que nous savons de la ville de Paris, nous avons des fan zones dans Paris, parce que je n'ai compté que Paris, dans les arrondissements, pour regarder sur l'écran géant cette cérémonie, autour de 50 000. Il y aura donc, à notre connaissance et à notre comptage, 576 000 personnes, dont 526 000 qui pourront regarder directement la cérémonie dans diverses façons que j'ai évoquées. Voilà, je voudrais quand même signaler à chacune et à chacun d'entre vous que 104 000 personnes plus 222 000, c'est-à-dire les Kéo et les Kéba, c'est 4 stades de France à gérer en ordre public et en flux, dans un moment où Paris sera, à ce moment-là, on y reviendra, coupé, puisqu'on ne pourra pas traverser la Seine, sauf les services de secours, à une période très particulière qui sera à la fin de la journée jusque le début de la nuit.
Vous venez d'entendre évidemment Gérald Darmanin lors de son audition au Sénat sur le dispositif de sécurité qui entoure les Jeux Olympiques. C'était le 5 mars dernier. Parfois, on se demande si dans les autorités qui nous gouvernent, on commence à regretter qu'il n'y ait pas qu'un seul stade de France et qu'il y ait 4 stades de France à gérer en flux. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Laton ? Parce qu'on sent que parfois des sueurs un petit peu à l'approche de ces épreuves. Et en particulier pour des questions de sécurité dont on va débattre pendant cette émission.
Oui, alors, ce qu'a dit Gérald Darmanin, il a parlé de la cérémonie d'ouverture. Faudra qu'on distingue le fonctionnement pendant les Jeux, les 3 semaines, de la cérémonie d'ouverture qui a un impact particulier parce qu'elle est sur un temps très, très contraint.
Et sur une
distance très longue qui coupe effectivement Paris complètement et qui nécessite des sécurisations particulières. Et puis qu'il y aura aussi, du côté du Champ de Mars et du Trocadéro, tous les dirigeants des différents pays qui seront invités, qui seront là. Donc il y aura une bulle de sécurité très particulière, un peu comme on avait pu le voir à Bayonne au moment du G20, quand le G20 était à Bayonne. Il y a des obligations de sécurité qui sont très fortes à ce moment-là. Il ne faut pas oublier que les JO, la cérémonie d'ouverture, c'est le début des 3 semaines. C'est aussi un endroit particulièrement, un moment particulier qu'il faut sécuriser pour éviter d'avoir des incidents, incidents pour les personnes qui le voient, mais aussi pour éviter que des groupes de hackers fassent n'importe quoi et qu'il se passe des choses. Donc c'est effectivement quelque chose à sécuriser de façon très particulière. Mais c'est que la cérémonie d'ouverture. Il faudra qu'on discute aussi, je pense qu'on aura le temps, des 3 semaines et de l'ensemble des lieux sur lesquels il y aura des jeux.
Et pour vous, Elia Verdon, qui travaillait justement en tant que jeune doctorante en droit public et informatique de l'Université de Bordeaux, qui travaillait sur cette question de la surveillance des populations en démocratie, est-ce que ce moment est un moment spécifique? Est-ce que ce moment, est, certains l'ont dit, est une sorte de tournant dans la façon de gérer les populations dans une ville dense comme Paris? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors effectivement, ce qui est sûr, c'est que le cadre des Jeux Olympiques est un moment particulier en termes donc de sécurité et de sécurisation de l'ordre public. Bien évidemment, comme d'autres événements, comme on a pu le voir pour le Covid-19 ou un peu plus, de manière un peu plus lointaine pendant les états d'urgence sécuritaire, on voit que ces moments extrêmement particuliers produisent des expérimentations en termes de dispositifs de surveillance. Donc c'est le cas, on va certainement reparler, mais de la vidéosurveillance algorithmique, mmh. où on réutilise aussi des dispositifs de surveillance qu'on a déjà vus dans d'autres cadres, comme les QR codes.
Et puis, il y a effectivement une autre dimension, c'est que, comme je le mentionnais en ouverture de cette émission, eh bien, on va progressivement s'approcher de ce moment-là et on a l'impression qu'il y a des étapes qui se déroulent dans la ville, qui ne sont pas des étapes sportives, mais des étapes de transformation de la ville momentanée pour peut-être sécuriser, comme on le disait, les JO à Paris, d'autant que certaines épreuves, et ça n'est pas le cas partout dans toutes les épreuves de JO, se dérouleront dans le cœur de la ville même. Vous êtes très alerté de cette question, Antoine Declercq. Vous pouvez nous parler de votre campagne Le Revers de la Médaille?
Oui, Le Revers de la Médaille, c'est une campagne qui réunit 90 associations qui travaillent au quotidien auprès des personnes en situation très vulnérable, qui soit vivent dans la rue ou vivent de la rue, donc des personnes sans abri, des personnes exilées qui n'ont pas de logement, les travailleuses du sexe, les personnes usagères de drogue qui se regroupent parfois dans la rue, les bénéficiaires de l'aide alimentaire qui vont faire des queues et des files pour pouvoir accéder à l'aide alimentaire. Toutes ces personnes-là, à un moment donné, se retrouvent dans l'espace public, soit de façon permanente, soit de façon relativement longue. Et on voit bien que il y a deux phénomènes en fait qu'amènent les méga événements sportifs comme les Jeux Olympiques, un phénomène de saturation de l'espace public par les visiteurs, par la saturation des transports en commun et par la présence policière qui rend en fait tout simplement la présence de l'espace public plus difficile pour ces personnes vulnérables. Et puis un deuxième phénomène là qui s'est observé, c'est toutes les éditions précédentes des Jeux, et Paris ne fait pas exception, quand les caméras du monde entier arrivent, quand les touristes du monde entier arrivent, on veut montrer l'image la plus belle possible de la ville, et pour ça les populations qui sont jugées ne pas rentrer dans la carte postale sont éloignées des Jeux.
Alors est-ce que cet éloignement a commencé? Est-ce que c'est une crainte des associations que vous représentez avec Le Revers de la Médaille? C'est-à-dire, est-ce que vous dites justement ça s'est déjà fait ailleurs, on va le faire à Paris. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui de justement ce nettoyage momentané de la ville de Paris, de ceux qui apparaissent comme, disons, ne devant pas être sur la photo?
Oui, en réalité, donc nous on qualifie ça de nettoyage social. C'est pas un mot qu'on a inventé, c'est le mot social cleansing qui est utilisé en anglais dans tous les rapports de recherche sur ce sujet-là, qui a commencé pour nous de façon extrêmement importante en Seine-Saint-Denis et à Saint-Denis en particulier, autour de toutes les nouvelles constructions qui ont eu lieu dans ce quartier et puis qui se sont petit à petit propagées dans l'ensemble de l'Île-de-France et en particulier à Paris. Nous avons commencé cette campagne au mois de septembre en alertant, en interpellant sur un risque possible. On a étudié ce qui s'était passé auparavant et les prémices avaient déjà commencé. Aujourd'hui, ce n'est plus un risque, c'est une réalité observée, documentée au quotidien dans la ville.
Mais cela, effectivement, Philippe Latombe, quand vous y réfléchissez en tant qu'élu, vous vous dites, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas comme ailleurs, d'une certaine manière, et ça fait partie de la préparation des grands événements sportifs que de, disons, tenter de rendre les accès plus sécurisés, et donc à partir de ce moment-là, d'écarter des populations qui sont plus fragiles des endroits où ça va se dérouler.
C'est pas parce que ça s'est déjà fait que c'est de la motivation et que ça... C'est pas la comparaison qui emporte la décision du politique ou des politiques sur le sujet. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les Jeux soient les plus sécuritaires possibles pour les gens qui sont les athlètes, mais aussi tous ceux qui viennent voir les épreuves. Et donc, il y a forcément des questions qui se posent sur comment est-ce qu'on protège, effectivement, des zones dans lesquelles il va y avoir une population de visiteurs, de touristes, et comment est-ce qu'on fait pour les sécuriser au maximum, sans pour autant essayer d'ostraciser qui que ce soit. Mais il y a bien aujourd'hui, je prends l'exemple des usagers de drogue, sur un ensemble d'usagers de drogue, ça peut poser des problèmes de sécurisation dans le cadre des jeux, parce que il peut y avoir des comportements violents, il peut y avoir un ensemble de choses. Il faut être très honnête, on n'a peut-être pas assez anticipé les JO sur ce point-là. Nous n'avons pas suffisamment d'êtres humains en capacité de venir sécuriser les JO avec des forces de l'ordre, policiers et gendarmes, même si on a utilisé tout ce qu'on pouvait comme réserve, et en personnel de sécurité pour faire ce genre de choses.
Antoine de Clercq ?
Oui, la question des usagers de drogue, elle se concentre beaucoup autour des usagers de crack, hein, oui, cocaïne base, en particulier des petites centaines de personnes, notamment migrantes, qui se regroupent dans certains quartiers de Paris et qui sont maintenant chassées de quartier en quartier, beaucoup autour de la Villette aujourd'hui. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les opérations de police, avec l'arrêté qui a été pris par la préfecture de police anti-regroupement. Donc on interdit aux gens de se regrouper et la police intervient pour éviter que ces regroupements se fassent. En réalité, on ne fait que disperser le problème, on ne prend pas en charge. Donc le problème de l'usage de la drogue à très court terme, la seule façon de le prendre en charge, c'est de déployer des dispositifs médico-sociaux où les gens vont être accueillis dans des salles de repos, des salles de consommation, etc. Aujourd'hui, on a un énorme moyen qui est déployé pour les Jeux Olympiques, en particulier pour des raisons sécuritaires, mais au-delà même de que les riverains, en fait, n'aient pas à rentrer avec leurs enfants de l'école et puis se trouver à côté de consommateurs qui ont des comportements qui ne sont pas toujours prévisibles. Mais sans ces dispositifs médico-sociaux, on ne fait que disperser le problème. Nous, on regrette qu'à l'occasion des Jeux, où ce problème est connu, c'est un problème récurrent qui existe depuis des années, on n'ait pas profité de ce moment-là pour déployer des moyens adéquats pour prendre en charge le sujet.
Alors, il y a donc ces questions, effectivement, des usages de la rue, du secteur public et de l'espace public, donc dans le cas d'un événement exceptionnel comme les JO. Et puis, il y a cette autre question sur laquelle vous êtes penché en tant que juriste donc et spécialiste d'informatique, Elia Verdon. C'est donc la question de la surveillance des populations, qui n'est plus une surveillance policière, mais qui est une surveillance un peu à distance, avec l'intermédiaire de la surveillance donc algorithmique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est ? Et là, je vous ferai débattre avec Philippe Latombe, parce qu'il a vraiment travaillé sur cette question en tant que député.
Alors oui, tout à fait. Il y a des questions en termes de droits et libertés, notamment, qui se posent, et après, en termes de démocratie, par rapport à la surveillance des populations. Donc le sujet en termes de dispositifs de surveillance pendant les Jeux Olympiques, c'est principalement la vidéosurveillance intelligente ou algorithmique. On a pu entendre parler de VSA. C'est quoi cette technologie ? Alors, on va coller une couche logicielle, donc un algorithme de traitement et d'analyse automatisée des images. Donc, les images, elles sont captées par quoi ? Par des caméras de surveillance, soit qu'on a directement déjà dans les villes, soit par des drones auxquels vont être accolés voilà, cette couche logicielle. Qu'est-ce que ça va permettre ? Bon, au lieu que l'analyse soit faite par l'humain, par l'agent, ça va être une analyse automatique, systématique, en temps réel, par un algorithme qu'on a entraîné au préalable pour détecter de manière autonome des objets ou comportements dits suspects ou anormaux. Voilà. Après, se pose la question de qu'est-ce qu'un comportement suspect ou anormal. Bon, alors ça, le décret publié en août 2023 nous liste différents comportements et on a par exemple le non-respect d'une personne ou d'un véhicule du sens de circulation. Bon, s'agissant d'un véhicule, on peut tout à fait comprendre pourquoi il est important qu'un véhicule n'aille pas à contre-sens du sens de circulation. Pour une personne, par contre, on peut se questionner en termes de droits et libertés et notamment en termes de liberté d'aller et venir. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui va à contre-sens du sens de la circulation, ça peut être tout simplement une personne qui a laissé tomber quelque chose et qui veut le récupérer. Son enfant lui a échappé des mains, elle veut aller le chercher. Et donc là, on voit que du coup, on va venir surveiller de manière plus étroite la liberté d'aller et venir des populations dans l'espace public.
Avec votre rapport d'information d'avril 2023, donc, qui précédait justement cette loi, vous avez beaucoup travaillé sur cette question. Philippe Latombe, vous avez dû vous poser avec tous ceux qui travaillaient avec vous la question de savoir où étaient les limites que l'on fixait justement à cette liberté d'aller et venir, quels étaient les gestes qui allaient déclencher justement l'alerte de cette surveillance algorithmique, tout en sachant qu'il n'y a pas de question justement de reconnaissance faciale dans ce type de surveillance tel que vous l'avez décrété.
Il n'y a aucune biométrie C'est clairement quelque chose qui a été exclu, qui de toute façon n'est pas compatible avec le droit de l'Union, avec notamment l'IACT qui l'a interdit de façon claire. Donc cette ligne rouge, nous ne voulions pas la franchir, et c'est clairement quelque chose que nous avons posé dès le départ, qui a été validé d'ailleurs par la CNIL et par le Conseil constitutionnel. L'idée d'avoir un son... Les caméras sont là pour aider à la décision. C'est-à-dire qu'elles vont servir dans les centres de supervision urbain ou les centres de commandement à mettre sur l'écran principal des images d'un endroit où il se passe quelque chose de particulier et qui nécessite qu'un être humain fasse l'analyse. L'algorithme, il ne fait pas l'analyse à la place d'eux. Il détecte quelque chose, il le pop-up, c'est pas très français, mais il l'envoie sur l'écran central, et la personne qui est dans le centre de supervision va décider que c'est normal ou anormal, va demander à faire une levée de doute si jamais il y a besoin, et c'est comme ça que ça va fonctionner. Ça ne remplace pas l'être humain. Et le deuxième point, c'est que pourquoi on prend par exemple la question de la circulation d'une personne en contresens. Je prends la cérémonie d'ouverture, qui sera pas tout le temps le bon exemple, mais on est sur les quais de Seine, dans un endroit qui va être très particulier. On a la Seine d'un côté et les parapets de l'autre. La pression du nombre de personnes au mètre carré est très importante, et on sait que tout mouvement un peu particulier peut générer du coup un effet de vague d'onde qui fait qu'il peut y avoir des gens qui tombent à la scène.
On a connu ça dans des stades, par exemple.
Dans des salles. Et donc, c'est la personne, on se fiche de savoir si c'est Madame Dupont, Monsieur Durand ou quoi que ce soit. On veut simplement être sûr que le mouvement sens inverse ne produit pas une pression particulière dans la foule qui fait qu'il pourrait y avoir un mouvement de foule. Et ça va être en plus un moment assez festif où les gens auront envie de pouvoir bouger, s'amuser, etc. Et donc assez vite, ça peut dégénérer. Les caméras, elles vont aussi beaucoup servir à ça.
Mais est-ce que ça ne pose pas la question justement de ce dispositif tel qu'il a été inventé, de ne pas faire cela dans un stade où on a tous l'habitude de surveiller effectivement un stade par la fouille préliminaire et parce que chaque personne qui a fréquenté un stade pour un match de rugby ou un match de foot sait ce qu'il en est. Et que là, ça se passe dans un endroit, disons, où la sécurité est plus difficile à assumer, étant donné le nombre de personnes que l'on attendait. Je rappelle qu'au tout début, on parlait d'un million de personnes sur les quais de la Seine. On a descendu la jauge, même encore un peu plus, oui. Sûrement, ce sera peut-être encore plus proche de 300 000 que de 500 000. Et au bout du compte, effectivement, de se poser la question de savoir si être au bord d'un fleuve, c'est une bonne idée quand on a une telle foule qui se rassemble.
C'est là où on revient à la question qui est une question politique et qui était la question de la candidature de Paris. C'est qu'est-ce qu'on voulait pouvoir promouvoir de Paris au moment des JO. C'est une vitrine. Et donc la Seine et les monuments qui sont autour de la Seine sont la chose que Paris voulait mettre en avant le plus. Et donc la cérémonie d'ouverture se fait là. Il faut qu'on la sécurise de façon correcte. Pour le reste, les vidéosurveillance algorithmique ne sera pas utilisée en permanence partout dans Paris. Ça sera juste ponctuellement dans certaines zones, comme les fan zones, par exemple, là aussi, pour éviter des phénomènes de pression de foule, et à certains endroits pour faire de la surveillance bâtimentaire.
Et puis, on peut rappeler historiquement qu'effectivement, c'est bien au bord de la Seine que se déroulait la grande exposition universelle de 1900. Donc, il y avait aussi des risques, mais il y avait peut-être moins de surveillance algorithmique. En tous les cas, ça n'existait pas. Antoine de Clercq.
Oui, en fait, vous venez de prononcer le mot, les Jeux Olympiques, c'est l'occasion d'être une vitrine du monde, donc les caméras du monde entier vont se tourner vers Paris pendant le temps d'un été, une attention très très particulière sur la ville, et donc évidemment on a des phénomènes, et enfin, évidemment comparaison n'est pas raison, mais nous avions alerté en fait sur le fait que cette pression sécuritaire, elle engendre pour les populations de la rue, encore une fois, les plus fragiles, des impacts qui pouvaient être anticipés. Nous, ce qu'on regrette, c'est que on associe en fait la pression sécuritaire et probablement les risques extrêmement importants qui existent avec le fait que toutes ces populations qui sont en situation de rue pourraient représenter soit quelque chose qu'on n'a pas envie de montrer dans la carte postale, soit quelque chose qui pourrait représenter des enjeux de sécurité sans les prendre en charge.
18h39 sur France Culture, vous écoutez Le Temps du Débat. Nous posons cette question à nos trois invités, à savoir Philippe Latombe, qui est député MoDem de la première circonscription de Vendée et co-auteur d'un rapport d'information sur les enjeux de l'utilisation d'images de sécurité dans le domaine public. Antoine de Clercq qui est avec nous, vous venez de l'entendre, il est coordinateur de la campagne Le Revers de la Médaille. Et puis Elia Verdon, qui est doctorante en droit public et informatique à Bordeaux. Elle rédige une thèse sur la surveillance des populations en démocratie. Vous écoutez Le Temps du Débat.
la vidéoprotection augmentée sera pas optimum au moment des Jeux Olympiques, mais les Jeux Olympiques seront en fait la base d'une expérimentation, un beau terrain de jeu et un très grand terrain de jeu pour expérimenter réellement cette vidéoprotection augmentée. Donc en fait, les Jeux Olympiques ne seront pas la finalité de la vidéoprotection augmentée, mais le moment de tester réellement l'utilité de cette nouvelle technologie. Et les scanners à ondes millimétriques, nous on pensait que ça aiderait aussi, parce que ça permettrait rapidement, et tout ça, l'objectif, que ce soit de la vidéoprotection augmentée ou que ce soit des scanners à ondes millimétriques, ce qui avait été vendu entre guillemets, c'est que ça allait libérer des forces de l'ordre. Parce qu'au lieu d'être derrière des caméras, au lieu de faire des palpations à l'entrée des sites, eh bien, la technologie permettait de libérer un certain nombre de forces. Donc il faudra compenser par plus de forces de sécurité intérieure ou de sécurité privée ce défaut d'outils technologiques au point.
France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
Vous venez d'entendre Agnès Canayer, sénatrice LR, co-rapporteuse d'une mission d'information sénatoriale présentant son rapport sur la sécurisation des Jeux Olympiques. Dites-nous, le scanner millimétrique, c'est quoi ?
Le scanner millimétrique, c'est un dispositif qui permet, quand on passe sous le portique, de pouvoir voir si vous portez des éléments sur vous et de pouvoir savoir si ce sont des éléments de type clé, de type téléphone portable. Donc ça permet d'éviter la fouille corporelle avec palpation. On l'utilise déjà pour notamment sécuriser le tribunal de police, le tribunal de Paris, le tribunal de grande instance de Paris. Ça permet de sécuriser aussi dans un certain nombre de transferments de prisonniers pour être sûr qu'ils n'ont pas sur eux des éléments qui permettraient de pouvoir sortir. Là, on a pris beaucoup de précautions sur les scanners millimétriques pour faire en sorte qu'il y ait un gabarit qui soit le même pour tout le monde, que la personne qui voit une personne passer sous le portique ne soit pas celle qui voit la silhouette sur l'écran du scanner. Tout ça pour éviter que ça puisse être détourné et utilisé à des fins qui ne sont pas les bonnes.
Oui, sur ce point, Elia Verdon, est-ce qu'il y a dans toutes ces approches, pourrait-on dire, de surveillance des populations, puisque vous travaillez sur cette question-là, disons des étapes, c'est-à-dire des marches à gravir? On entend bien le député Philippe Nathan nous dire on a bien fait attention à ceci, on a bien fait attention à cela, on a évité la surveillance biométrique par exemple, etc. Mais au bout du compte, effectivement, est-ce que ce sont des moments, ces moments particuliers où on gère des très grandes foules, où on se dit on va tester ce système et puis on va voir s'il est possible de l'améliorer ou de le développer plus tard avec d'autres potentialités?
Alors oui, tout à fait. Ces événements très particuliers sont de véritables laboratoires ou moments d'essai de dispositifs de surveillance ou même de lois qui visaient à mettre en place des dispositifs de surveillance qui étaient déjà dans les tuyaux depuis un certain temps, mais qui sont adoptés à ce moment-là pour répondre à soit un sentiment d'insécurité, c'est ce qu'on a pu voir pendant les attentats de 2015, il y a la loi renseignement qui entre en vigueur quelques mois après, ou voilà, pour répondre à ce type de grands événements. Ce qu'on voit généralement, c'est que l'expérimentation...
Ah, je crois qu'on vous a perdu momentanément, Elia Verdon, on va vous retrouver tout de suite. Est-ce que vous pensez que c'est une sorte de... Les précautions que vous avez prises, Philippe Laton, sont des précautions qui sont suffisantes pour que ça ne se développe pas ensuite avec d'autres potentialités, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, tout compte fait, on se dit, bah voilà, ça a marché, mais il y a eu tel et tel incident. Il faudrait peut-être lever l'interdiction de la surveillance biométrique, ou il faudrait peut-être lever telle ou telle autre protection que nous avons mise en œuvre pour protéger les libertés publiques.
Ce qu'on a dit... Et ce que le Conseil constitutionnel a bien rappelé dans sa décision, c'est que c'est une expérimentation avec un bilan qui doit être fait de façon claire et posée et qu'il ne peut pas y avoir de prorogation de la loi sans avoir un nouveau débat.
Donc ça veut dire que le 15 septembre, ça s'arrête ?
Non, ça s'arrête un peu plus tard, ça s'arrête en mars parce que nous avons besoin de pouvoir faire l'ensemble des bilans d'expérimentation et de pouvoir éventuellement refaire passer les algorithmes qui ont été utilisés sur les images pour être sûr qu'on n'a rien raté à la lumière d'événements qu'on aurait pu simplement voir par des êtres humains.
Donc ça continue quand même 6 mois après la fin des JO.
L'utilisation de la vidéosurveillance algorithmique ne sera pas utilisée jusqu'au 31 mars sur les services publics.
Ce qui a été enregistré pendant le...
Mais les images qui ont été enregistrées sont les images qui ont été enregistrées classiquement. Il n'y a pas de changement des durées de conservation, il n'y a pas de changement de ce genre de choses. C'est que simplement on veut pouvoir faire le bilan, notamment des faux positifs. La vraie question qui est posée, et c'est le vrai problème de la vidéosurveillance algorithmique, c'est est-ce que ça aide à trouver et à à permettre d'avoir un focus des personnels de sécurité sur des vraies situations à risque, ou est-ce qu'il y a beaucoup d'éléments de faux positifs qui font qu'on fait perdre du temps à ces personnes? Il y a un certain nombre d'expérimentations qui ont été tentées par les SNCF et par les RATP qui montrent que ça ne marche pas, et notamment la circulation en sens inverse ne marchait pas. Je vous donne un exemple. Il y a eu un moment dans les couloirs du métro, quand des gens remontaient d'un escalier, ça posait un problème et ça bipait parce que c'était pas normal. Et bien, ils se sont rendus compte que 3-4 jours par semaine, les gens remontaient. Pourquoi ? Parce que l'escalator qui permettait de remonter, qui était à 50 mètres, ne marchait pas. Et donc, les gens prenaient ce chemin de raccourci. Et donc, ça, c'était plus possible pour la RATP de le gérer. Ils ont abandonné cette expérimentation.
Elia Verdon, on vous a retrouvé.
Oui, excusez-moi.
Vous n'y êtes pour rien. ça n'est pas la surveillance algorithmique, c'est simplement la technique, en l'occurrence, que nous utilisons pour vous joindre, qui a rompu momentanément. Je vous laisse continuer justement sur cette question des risques postérieurs que vient de lever Philippe Latombe en disant voilà, ça va s'arrêter en mars prochain, on aura fini d'analyser tout ce qui a été enregistré pendant ces JO, essayer d'améliorer le système, mais de ne pas lever des obstacles qui pourraient nous conduire vers plus de surveillance, vers le social scoring, comme on dit, à propos de ce qui se passe en Chine.
Donc, pour le social scoring, normalement, il y a peu de risques, puisque l'IA Act qui vient d'être adopté et qui entrera en vigueur dans 2 ans environ, en tout cas qui sera mis en application dans 2 ans, interdit formellement le social scoring.
Donc, le social scoring, expliquons effectivement à nos auditeurs que c'est vraiment une surveillance très précise de toutes les populations et même une reconnaissance faciale qui permet à chacun de savoir en tout cas aux autorités, de savoir où on se trouve à tel endroit, à tel moment.
Oui. Aux populations, bon, c'est ce qu'on peut voir en Chine, par exemple.
Donc ça, il y a peu de risques de ce côté-là, mais qu'est-ce que vous craignez alors en tant que spécialiste de ces questions ?
Les risques, donc je vous parlais de la pérennisation, voilà, les risques en termes de dispositifs de surveillance sont à peu près toujours les mêmes, c'est la pérennisation, et on voit que généralement, ils sont mis en place par des voies d'expérimentation. C'était le cas des boîtes noires mises en place sur la loi renseignement qui ont été pérennisées, mais également le cas de la collecte des métadonnées, donc tout ce qui enveloppe la donnée mise en place dans une expérimentation en 2006, puis pérennisée, les dispositifs paraf pour passer plus rapidement les frontières dans les aéroports ou dans les gares, qui ont été également pérennisées, voilà, etc. Donc ça c'est le risque, c'est la pérennisation. Et pourquoi ça sera un danger de pérenniser cet outil-là de surveillance ? Eh bien, tout simplement, pour des atteintes aux droits et libertés. Généralement, en plus, ces dispositifs de surveillance, lorsqu'ils sont pérennisés, ils sont progressivement, petit à petit, étendus. Donc là, aujourd'hui, on a un champ d'événements assez restreint. Mais la question se pose, est-ce que si le dispositif est pérennisé, les événements vont pas se multiplier et donc conduire à une normalisation des comportements ? À partir du moment où on normalise les comportements, les individus vont s'auto-contrôler, vont auto-contrôler leur comportement. C'est ce qu'on appelle le chilling effect dans la doctrine des surveillances. Et donc, quand les individus, à leur insu, modifient leur comportement, il peut y avoir de graves atteintes aux droits et libertés.
Avec cette fameuse phrase, si je ne fais rien de mal, je ne risque rien. Donc, d'une certaine manière, je vais moi-même me protéger contre tout cela. Hein, on peut dire, est-ce que vous avez...
Oui, c'est un peu le différent qu'on a, nous, avec les préfectures et les responsables des forces de l'ordre. La présence policière à Paris sera inégalée. On parle de 30 000 policiers, 15 000 militaires, 2 000 policiers municipaux, des brigades venues d'étranger. Donc, probablement plus de 45 000 personnes en uniforme. Sur 3 000 km de trottoir à Paris, vous faites les comptes, ça en fait un tous les 10 ou 20 mètres. 650 personnes en patrouille de police.
Ils ne sont pas tous ensemble, je pense.
Ils ne sont pas tous ensemble. Bon. Donc, cette présence sera très forte.
C'est un ratio un peu différent, parce qu'ils doivent être là le matin, le midi et le soir, ça sera difficile pour chacun d'entre eux.
Donc, peut-être ce sera tous les 50 mètres ou les 60 mètres, mais voilà, on prévoit ça. Probablement pour des bonnes raisons sécuritaires, mais on sait très bien que la présence de forces de l'ordre, tous ces dispositifs sécuritaires, ce sont des barrages au mouvement des personnes les plus vulnérables qui déplacent énormément pour aller à une aide alimentaire, pour aller prendre une douche, pour aller travailler. Donc tout ça peut s'anticiper. Tout ça peut être pris en charge. Nous, ce qu'on regrette, c'est que ce dispositif sécuritaire-là n'ait pas été pensé aussi avec un accompagnement social qui va avec.
Mmh, on a bien compris de ce côté-là. Et le QR code, Philippe Latombe, qu'est-ce qu'il faut en dire ? Parce que cela, c'est un peu nouveau dans l'espace public. On se dit, ce QR code, il va falloir l'avoir sur soi en permanence, y compris pour rentrer chez soi quand on se trouvera dans un secteur particulier. Pour traverser un secteur avec un véhicule, ça sera aussi nécessaire. Et puis peut-être aussi pour avoir la possibilité de se déplacer dans des endroits qui sont des endroits où les jeux se dérouleront. Ça, c'est une certaine nouveauté tout de même.
C'est une nouveauté parce qu'on l'appelle QR code et qu'il réapparaît sous cette forme-là et qu'on l'avait malheureusement connu pour de mauvaises ou de bonnes raisons au moment de la crise Covid. Et ça fait dire d'ailleurs à un certain nombre de personnes que la crise Covid était une expérimentation et qu'on est en train de pérenniser le QR code. Je pense que c'était ça en filigrane une partie de la question.
Non, mais c'était pas une partie de la question. Il y a eu un très beau un livre de sociologue qui vient de sortir sur la question de l'autorisation, justement, qui raconte effectivement comment les comportements, c'est ce que disait aussi d'ailleurs Elia Verdon, les comportements se sont, levés dans cette obligation pendant la Covid de sortir à un certain moment et de ne pas faire plus d'un kilomètre autour de chez soi, par exemple.
Je comprends. Là, on est sur 3 semaines très particulières avec une densité très importante de lieux dans lesquels il y aura des manifestations sportives, avec des circulations de sportifs qui iront du village olympique aux différents endroits, qui seront millimétrés en termes de temps parce qu'il faudra absolument qu'ils soient à la bonne heure comme il faut, etc. Donc, on a des contraintes techniques qui font qu'on va devoir gérer la circulation. Et donc, comment est-ce qu'on gère la circulation ? On la gère en mettant des restrictions à certains endroits, des autorisations.
En fermant une quinzaine de stations de métro.
C'est ça, c'est une partie des difficultés. C'est aussi peut-être que, là encore, l'anticipation des Jeux n'a pas été suffisante et que nous n'avons pas l'infrastructure de transport public qui permet de s'affranchir de ces zones de circulation.
Il faut dire qu'on avait prévu d'autres lignes de métro qui ne seraient pas ouvertes à temps.
Qui ne sont pas là, qui ne seront pas disponibles. Donc, on a ce phénomène-là. Et puis, sur un certain nombre d'endroits, il y aura des immeubles qui vont voir directement soit sur les fan zones, soit sur des enceintes sportives. Et donc, il faut qu'on s'assure qu'à l'intérieur, il n'y a pas de personnes qui pourraient poser un problème de sécurité. On est dans un moment géopolitique international très important. Il faut quand même se dire et se rappeler que les Russes, aujourd'hui, sont exclus de la cérémonie d'ouverture, qu'ils ne pourront pas avoir d'athlètes sous la bannière russe, mais en bannière neutre. Ils ont déjà dit qu'ils allaient faire ce qu'ils pouvaient pour faire en sorte que les Jeux ne soient pas le vrai succès que c'est, parce qu'ils en sont exclus. Et donc, forcément, il y a des contraintes assez fortes sur le sujet. Il faut qu'on puisse prendre ces précautions. Ça ne dure que 3 semaines.
Il faut rajouter les Paralympiques, quand même.
Non, mais il faut rajouter les Paralympiques. Ça dure 3 semaines. Les Paralympiques sont un peu moins impactants, parce qu'il y a moins de sites et il y a moins d'athlètes. C'est effectivement quelque chose, dans le temps, c'est le revers de la médaille des Jeux. Mais il faut qu'on arrive à pouvoir les sécuriser. C'est aussi une des conditions de l'attribution des Jeux à Paris.
Ouais, Elia Verdon.
Oui, je souhaitais rebondir parce que c'est finalement ce qui interroge, c'est que sous couvert du caractère exceptionnel de ces Jeux, finalement, se joue une banalisation des outils de surveillance qui sont renforcés aussi par la banalisation de ces outils dans la multiplication des usages privés, bien évidemment, qui conduisent à dissoudre la conscience de l'importance de l'atteinte à son intimité, de l'atteinte à la vie privée. Et d'ailleurs, si le QR code, on s'en souvient, on l'a vécu sous le pass sanitaire, c'est ce que la CNIL déjà soulignait en 2021 s'agissant du pass sanitaire, donc qui était un QR code, qu'il fallait faire très attention au risque d'accoutumance et de banalisation de ces dispositifs attentatoires à la vie privée et au glissement à l'avenir potentiel pour d'autres considérations. Et là, on voit très bien que les Jeux Olympiques sont aujourd'hui des considérations à utiliser soit à nouveau, soit différemment, en tout cas, ces dispositifs de surveillance et potentiellement à conduire vers une société où le contrôle serait la norme et non plus l'exception. Et donc, finalement...
Allez-y.
Ce caractère très exceptionnel conduit à, d'une certaine manière, endormir la pensée autour de ces technologies et des atteintes aux droits et libertés.
Est-ce qu'une des questions, peut-être, Philippe Latombe, qui nous interroge, c'est cette question, vous l'avez dit vous-même, on n'aura pas assez de forces de police en permanence pour pouvoir bien sécuriser l'ensemble des endroits où se trouveront et les athlètes et les spectateurs. Et donc, il y a une dimension technosolutionniste, c'est-à-dire on se dit on va remplacer des êtres humains qui sont faits pour pouvoir surveiller ce type d'espace par des moyens techniques, QR code, vidéosurveillance algorithmique, etc., qui vont économiser du potentiel humain dans ces moments particuliers de tension et en même temps de joie que peuvent être des grandes manifestations comme les Jeux Olympiques.
On ne peut pas nier que, effectivement, la pénurie de forces de sécurité, qu'elles soient privées ou publiques, pose des questions. Et que,
même s'il y en a 40 000, quoi.
Même si on voilà. Ouais. Mais c'est effectivement ça, une partie de la réponse est dans votre question. C'est oui, effectivement, ça sert à optimiser l'utilisation des forces de l'ordre. Dans un centre de supervision urbain, quand on a 70 caméras, on peut avoir une personne qui regarde à peu près correctement pendant les caméras pendant quelques minutes. Quand on en a 150 ou 200, c'est totalement impossible. Le cerveau humain n'est pas fait pour ça. La surcouche algorithmique permet simplement de détecter des anomalies qui permettent d'attirer l'attention de l'être humain. Donc on optimise effectivement. Ça ne remplace pas l'être humain. Il faut vraiment qu'on se dise les choses. C'est pas ça qui va permettre d'envoyer directement des forces de l'ordre quelque part. C'est simplement de vérifier que telle situation nécessite une levée de doute, l'envoi d'une patrouille ou pas, ou que c'est pas le sujet. Mais effectivement, si nous avions plus de personnes, nous aurions besoin de moins de ces solutions-là, ou en tout cas, le fait de ne pas avoir anticipé un certain nombre de déplacements et de choses comme ça fait que oui, nous avons besoin de ces solutions.
Et si, disons, ces solutions arrivent dans les mains de pouvoirs moins démocratiques, qu'est-ce qu'on en fait ?
C'est tout l'intérêt d'avoir demandé au Conseil constitutionnel de se positionner et d'avoir pris une doctrine très claire sur le texte JO. C'est aussi ce qui a été rappelé à Bordeaux par Ilia Verdon, c'est que dans l'IACT, tout ce qui est crédit social est interdit et donc ça a une valeur supranationale puisque c'est un accord qui s'impose à nous. Et donc on essaie d'avoir ces garde-fous et je suis très, enfin là aussi la Cour de justice de l'Union, j'aime beaucoup la Cour de justice de l'Union parce que elle dit le droit et elle nous impose des barrières et des contraintes qui permettent d'éviter que nous puissions avoir des débordements législatifs intempestifs.
Antoine de Clercq ?
Oui, en fait, Philippe Latombe, la question que vous posez aussi, elle revient à la démocratie et à ce que vont vivre ou ce que se préparent à vivre les citoyens. Il y a une question qui est posée autour de l'organisation de ces méga événements sportifs, en particulier des JO, c'est à quel point les citoyens ont été associés à ce genre de décision. Alors vous, au Parlement, vous en avez débattu, mais après que la décision a été prise, je ne crois pas qu'il y ait un débat parlementaire autour de veut-on accueillir ou pas les JO et dans quelles conditions. Voilà, comment vous voyez cette chose, vous qui êtes un représentant des citoyens
30 français. Secondes pour conclure.
Ça manque d'anticipation, ça manque de débat. Très clairement, nous aurions dû pouvoir discuter de l'opportunité des JO, de les accueillir et dans quelles conditions et qu'est-ce que nous voulions mettre comme valeur. C'est une candidature de Paris qui a été retenue avec un cahier des charges qui du coup nous a obligés à nous conformer au cahier des charges. Et quand on est en réaction, pas forcément toujours les bonnes solutions qui sont retenues, parce qu'on est toujours dans l'adaptation et dans la réaction et pas dans l'anticipation.
Merci beaucoup à tous les trois, en tout cas d'avoir débattu paisiblement de ces questions de à qui appartiendra la rue, justement, pendant les JO de Paris. Philippe Latombe, vous étiez avec nous, vous êtes député MoDem de la première circonscription de Vendée et co-auteur d'un rapport d'information sur les enjeux de l'utilisation d'images de sécurité dans le domaine public. Avec nous était également Antoine de Clercq, coordinateur de la campagne Le Revers de la Médaille, qui regroupe 90 associations, dont le Secours catholique et Médecins du Monde. Avec nous également à distance, Ilia Verdon, doctorante en droit public et informatique à l'Université de Bordeaux. Vous organisez un débat justement le 10 juin prochain dans les locaux de Cap Science à Bordeaux sur la surveillance pendant les JO. Merci encore à tous les trois. Le temps du débat a été préparé ce soir par Mathias Meji, Juliette Mouelic, Fanny Richer, Roxane Poulain, Anouk Sevno, Stéphanie Villeneuve et réalisé par Laurence Malonda avec à la technique Marie-Claire Oumamadi.